Donc j'invite Sapho Marekovic, qui est avocate au barreau de la ville de Paris, à venir nous parler de cette forme d'engagement, voilà, de ce qui paraît un engagement privé, s'il en est, qui est celui de deux personnes qui décident de se marier, et qui finalement est un engagement très public, puisqu'il s'engage vis-à-vis de l'État. Sapho. Et je déclenche le temps.
Merci à tous. Bonsoir. Donc je m'appelle Sapho, je suis avocate au barreau de Paris. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui a au moins le mérite de tous nous concerner les uns et les autres, qui est l'engagement amoureux auquel on sera amené à être confronté un jour dans notre vie. Alors la première question qu'on peut effectivement se poser, c'est un avocat qui divorce les gens toute la journée et qui vient nous parler de l'engagement amoureux. Est-ce que finalement c'est bien légitime? Et effectivement, dit comme ça, ça peut vous sembler un petit peu paradoxal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'engagement, il va vivre tout au long de sa vie, mais surtout, ce qu'il va, en tout cas, à mon sens, un petit peu déterminer la force de cet engagement, eh bien, c'est le caractère de réversibilité de l'union que vous allez choisir. Je m'explique, plus vous allez choisir de vivre votre amour dans une union qui est extrêmement libre et sans cadre juridique, et finalement, moins l'engagement est fort, puisqu'à tout moment, on peut rompre et on peut sortir. En revanche, plus vous allez vous soumettre à une union où il sera très difficile d'en sortir, et bien plus le jour où vous choisissez de vous y soumettre, vous faites un engagement volontaire symbolique qui est très fort. Et en la matière, et bien en droit français, évidemment, l'union suprême, en tout cas l'engagement suprême, ce sera le mariage. Ceux d'entre vous qui ont peut-être été déjà confrontés à l'expérience très sympathique d'un divorce savent qu'il est toujours difficile d'en sortir, alors qu'à l'inverse, eh bien, par exemple, le PACS, si certains peut-être parmi vous sont PACSés, sachez sans aucune, en tout cas incitation, qu'il est extrêmement simple d'en sortir. Si un partenaire veut mettre fin à un PACS, il lui suffit de signifier sa décision par huissier de justice à l'autre, ce qui est toujours très aimable quand un huissier se présente à vous pour vous mettre fin à votre union. Mais sachez également que lorsqu'un partenaire se marie avec quelqu'un d'autre que son partenaire, eh bien c'est tout à fait possible et ça met fin à votre PACS. Et je vous déconseille de faire ça dans un mariage, d'essayer de vous marier avec quelqu'un d'autre pour mettre fin à votre premier mariage. Ce serait de la polygamie, évidemment, et c'est strictement interdit. Alors moi, je vais vous parler donc ce soir, effectivement, principalement du mariage, parce que c'est là qu'on va sacraliser vraiment la question de l'engagement. Et on pourrait penser par essence eh bien, que le mariage, c'est vraiment une rencontre de deux personnes. C'est leur bonheur, c'est leur amour, et que l'engagement, il va avoir lieu qu'entre deux. Et c'est totalement inexact, puisque en fait, l'État français, la loi française vont avoir un rôle vraiment déterminant, et l'engagement, il sera tripartite, et ce sera d'ailleurs presque même la partie la plus forte dans l'engagement, puisque c'est l'État français, la loi française, qui va dicter vraiment toutes ces conditions sur l'engagement qu'est le mariage. Alors, on pourrait effectivement se dire que, eh bien, le mariage, c'est un mariage d'amour aujourd'hui, c'est le bonheur absolu. Toutes les théories individualistes, tous les kiosques à journaux devant lesquels vous passerez vous diront qu'on fait des très belles couvertures sur l'épanouissement personnel. Ça n'a évidemment pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, on estime qu'en 1950, soit une époque qui n'est quand même pas très lointaine, eh bien seul un mariage sur cinq était un mariage d'amour. Donc le mariage d'amour est vraiment extrêmement récent. Au Moyen-Âge, le mariage, il n'y avait aucune notion d'amour. On scellait une tribu, une alliance, une stabilité politique. Éventuellement, c'était des accords financiers. Et en contrepartie de quoi, eh bien, la noblesse française se permettait de répudier ses épouses à tout va au fur et à mesure qu'on avait besoin de sceller un meilleur accord. Ce qui va vraiment changer complètement le visage du mariage, c'est la montée en puissance de l'Église à la Renaissance. Le mariage va devenir vraiment un sacrement. D'ailleurs, à cette époque, le mariage civil n'existe pas. Il n'y a que le mariage religieux. Et déjà, on entre dans ce trio, ces trois parties, le couple, mais il y a l'Église, il y a Dieu, et comme c'est un sacrement, eh bien, on n'en sort pas comme ça, on a un engagement aussi envers Dieu, et à cette époque, évidemment, eh bien, le mariage est indissoluble. D'ailleurs, même si le mariage civil, lui, est instauré en 1792, donc c'est vieux, eh bien, jusqu'en 1884, sachez qu'on ne pouvait pas divorcer, le divorce était strictement interdit. Alors, évidemment, les choses ont beaucoup évolué, mais on pense souvent que le divorce, Le divorce, pardon, s'est libéralisé il y a déjà un certain temps. C'est assez faux, en fait, puisque les deux vraies grandes réformes qui ont libéralisé un petit peu le divorce, c'est 75, la première, hein, la loi VGE, mais c'est surtout 2004, une loi entrée en vigueur au 1er décembre 2005, donc c'est extrêmement récent. Et il faut savoir que, par exemple, jusqu'en 1975, on ne pouvait pas divorcer par consentement mutuel. Et ça, ça montre vraiment que la volonté des deux époux dans l'engagement, elle n'a pas tellement de valeur à cette époque, parce qu'on estime que deux personnes vraiment saines d'esprit, qui se sont engagées l'une envers l'autre et qui veulent mettre fin à leur union, eh bien on leur dit, eh bien non, c'est pas possible. Pour ça, il faut que vous invoquiez des fautes envers l'autre qui rendent selon vous intolérable le maintien de la vie commune et qu'un juge dise qu'effectivement vous avez été bien malheureux dans votre union et donc on vous autorisera à divorcer. Alors à l'époque, les avocats s'en donnaient à cœur joie et inventaient des fautes réciproques qui étaient suffisantes pour avoir le divorce mais d'égale intensité pour pas que l'un soit plus pointé du doigt que l'autre. Et c'était une grande période évidemment d'hypocrisie. Ceci a changé en 1975. Mais ça, c'est encore quand les deux époux sont d'accord. Quand un seul des deux époux veut divorcer, c'est beaucoup plus compliqué et jusqu'au jour où je vous parle, eh bien, si un seul veut mettre fin à son union mais n'a rien à reprocher réellement à son époux, si ce n'est qu'il ne l'aime plus, c'est interdit. C'est purement interdit, c'est associé à ce qu'on appelle la répudiation et c'est une connotation très négative comme vous l'entendez. Et aujourd'hui encore, eh bien, si un époux veut divorcer, il faudra soit qu'il invoque des fautes comme sur, contre l'autre, comme je vous le disais, qui rendent intolérable sa vie avec lui, soit qu'il justifie de 2 ans de séparation. Jusqu'en 2005, comme je vous le disais, il fallait justifier de 6 ans de séparation, donc c'est vous dire, c'est tout un temps, on ne peut pas se réengager auprès de quelqu'un d'autre, donc c'était extrêmement fort. Et ceci vous démontre que même encore, eh bien, il y a une puissance très forte de l'État qui vous dit, eh bien, vous ne vous désengagez pas comme vous voulez, vous entrez dans le mariage et ensuite vous y restez. Et l'État va également avoir une autre dimension très forte, c'est au-delà de comment mettre fin à votre union, c'est comment vous allez vivre votre union. Et l'État va vous dire, eh bien, il y a des devoirs dans le mariage, quelle que soit votre conception du couple, vous devez vous y tenir et vous devez les respecter et si vous violez ces obligations, vous serez sanctionné. Alors, ces devoirs, ce sont les mêmes, ce sont ceux que vous entendez à la mairie tous les ans quand vous allez à un mariage, la fidélité, le secours et l'assistance, et la vie commune. Alors, ceci veut typiquement dire que si vous avez une vision extrêmement libérale de la fidélité, si vous êtes un peu libertin et que, ma foi, votre époux, votre épouse ne le vit pas si mal et l'accepte, eh bien, un jour ou l'autre, ça pourrait se retourner contre vous, puisqu'on ne peut pas contourner, de quelque manière que ce soit, eh bien, l'obligation de fidélité, ce qui est quand même extrêmement important. Alors, tout ça a l'air comme ça, un petit peu textuel, et en fait, à un moment, on peut se poser la question de l'amour. L'amour, ça ne fait pas partie des obligations du mari. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est même allé plus loin. Au mois de novembre dernier, la Cour d'appel de Paris nous a rendu un arrêt pour nous dire que, eh bien, une épouse avait publiquement déclaré qu'elle n'aimait plus son époux, et bien que ce n'était pas une faute parce que l'amour ne fait pas partie des obligations du mariage. Bon, par ailleurs, elle avait quand même eu des relations extra-conjugales diverses et variées qui ont fait que le divorce a été prononcé assez tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose à retenir. Eh bien, la notion d'amour est totalement déconnectée, décorrélée de l'engagement textuel tel que je vous l'énonce. Alors évidemment, les tribunaux ont quand même une appréciation, une sanction de moins en moins forte et une vision un peu plus libérale. Par exemple, dans l'arrêt dont je vous parlais il y a quelques secondes, le mari, lui, parce qu'il n'y avait pas que la femme qui était fautive, le mari, lui, avait proposé ouvertement à une amie de sa femme, devant elle, de se revoir. Et ceci n'avait pas été considéré comme une faute, même si la fidélité est un devoir important. Donc vraiment, on a une vision de plus en plus ouverte sur l'interprétation des devoirs du mariage et on est de moins en moins sanctionné. Alors ceci, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle protection de l'État ? Pourquoi l'État vient vous dire comment vous devez vivre votre couple qui est par essence privé ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a toujours considéré que le mariage avait pour fondement la famille. C'est même écrit dans le code. Dans le code, il est écrit que les époux assistent ensemble à l'éducation de leurs enfants. Ils pourvoient aux besoins de la famille. Donc, on parle déjà de cette notion de famille. Et ils pourvoient donc à l'éducation des enfants qu'ils vont accompagner dans ce cheminement. Alors, c'est un peu désuet comme vision des choses parce que d'abord, aujourd'hui, on ne se marie pas nécessairement pour avoir des enfants. On peut très bien, eh bien, se remarier, ne plus avoir l'âge d'en faire. On peut très bien aussi, surtout, ne pas avoir envie. Et parallèlement, on peut aussi avoir envie de constituer une famille, mais de ne pas passer par le cadre du mariage. On peut se paxer, on peut être en union libre. Alors, d'un coup, finalement, l'État français s'est rendu compte de ça et a constaté qu'en plus, il y avait un vrai désamour pour le mariage ces dernières années. Entre 2005 et 2015, c'est moins 18% d'union, ce qui est quand même assez fort. Et puis, l'émergence donc, du pax et du concubinage qui ont été officialisés dans le code en 99, ont fait une vraie concurrence à ce type d'union. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être repenser un petit peu les choses puisque cette finalité très très stricte d'un mariage où on va tout vous contrôler et vous ne pourrez en sortir que difficilement, ça déplaisait aux gens, il y avait un vrai désamour. Et ceci m'emmène finalement à la réflexion que tous les professionnels du droit se sont fait vers l'évolution sur laquelle on va, c'est qu'aujourd'hui, vraiment la vision idéale de l'engagement amoureux, c'est de pouvoir le rompre à un moment, pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais de pouvoir en sortir. Parce que, tout simplement, l'engagement, il est beau quand il est consenti, quand il est voulu. Quand il est contraint, et qu'on empêche, à une époque où les libertés individuelles sont très fortes, un époux de sortir de son union alors qu'il n'a plus envie d'y être, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement surprenant. Quand on y pense, qu'on dise à quelqu'un, non, vous voulez sortir de votre union, trouver des choses horribles à reprocher à votre conjoint, ça, on s'est rendu compte que ça poussait les gens à être soumis à un engagement dont ils n'avaient pas envie, et la contrainte de l'engagement et la contrainte tout court et l'amour font très mauvais ménage, et heureusement on va vers en tout cas une flexibilité qui permet aux gens de vivre leur amour consenti et non pas contraint. Voilà, merci à tous.